nous allons parler cette semaine de la présentation d'un livre à Madrid, En Defensa de Israel, en défense d'Israël. C'est grâce à la volonté et l'effort de 19 intellectuels espagnols et à un éditeur, José Vicente Salaya, des éditions Certeza, que ce livre apparaît en Espagne au moment où ce nouvel antisémitisme déguisé d'antisionisme traverse l'Europe et l'Espagne aussi, et où la presse continentale, en particulier l'espagnole, le reçoit les bras ouverts en permettant que l'existence même de l'État d'Israël soit mise en cause, parfois avec l'excuse de l'antisionisme, parfois en défense de ce qu'ils appellent la cause palestinienne, ou simplement par judéophobie. Le promoteur de cette idée, Horacio Vázquez Rial, un des écrivains qui participent dans ce livre, se définit lui-même comme un goy hispano-argentin. Pour lui, Israël incarne les valeurs occidentales face à la barbarie. Dans son article titré « Si Israël tombe », il rappelle ce que disait Malraux. « Tout homme lucide est ou sera fasciste s'il n'a pas une loyauté qui l'en empêche. » Pour Malraux, cette loyauté fut l'Espagne. Aujourd'hui, pour lui, c'est Israël. L'axe de n'importe quelle bataille contre la barbarie et la défense d'Occident passe par la défense d'Israël. Sa position sur l'intervention en Irak est claire. Il faut intervenir en Irak et au Proche-Orient. Il faut intervenir dans les pays arabes, et pas pour des raisons préventives, mais parce qu'il y a une agression réelle. Saddam dit lui-même quand il envahit l'Irak en 91, « Il faut unifier la grande nation arabe et liquider Israël ». L'objectif est clair, et les Israéliens qui ont reçu les missiles le savent bien. Beaucoup d'intellectuels, donc 18, se joignent à lui. Mais qui sont ces instigateurs qui vont à l'encontre de ce qui est politiquement correct? Eh bien, ce sont des écrivains, des romanciers, des journalistes, des hommes politiques, des professeurs de philosophie, chercheurs au CSIC, notre CNRS, des intellectuels en somme, qui suivent des trajectoires différentes, mais qui sont unis par le même projet, dénoncer et expliquer la nature de ce nouvel antisémitisme déguisé. Car peut-être que tous les antisionistes ne sont pas antisémites, et encore il est difficile de l'imaginer, mais tous les antisémites sont antisionistes, et il y en a beaucoup. Les éditeurs espagnols ne voulaient pas d'un livre avec ce titre. Finalement, la présentation a eu lieu à l'hôtel Intercontinental, avec un public de 300 personnes. Dion Juaristi, le présentateur, est l'ancien directeur de l'Institut Cervantes, qui a été remplacé lors du nouveau gouvernement de Rodríguez Zapatero, parce que trop critique avec cette nouvelle gauche et sa conduite pendant les dernières élections présidentielles. Les intervenants étaient deux des 19 intellectuels qui ont écrit ce livre. Pilar Rahola, journaliste, écrivain, qui est aussi passée par la politique, une femme de gauche qui s'est beaucoup battue pour la libération de la femme en Espagne, et le professeur Reyes Mate, qui dirige la chaire de philosophie au CNRS espagnol et qui est membre du Collège de France. Ceux parmi vous qui comprenez l'espagnol sont invités à les écouter à radiosefarad.com dans la section Actos en directo, Presentación de un libro. Mais revenons un peu à l'histoire de notre communauté. Aujourd'hui, nous allons parler de la constitution de l'école juive de Madrid, car finalement, l'école reste la base d'une communauté juive. Nous avons aujourd'hui dans le studio une personne qui a été à l'origine de cette communauté et surtout à l'origine de l'école juive. Racontez-nous comment cette aventure a commencé. Et je dis aventure car pour créer une école, il faut surmonter pas mal de problèmes. Aujourd'hui, cette école, qui a fait ses preuves, est subventionnée par l'État et reçoit environ à peu près 200 enfants. Mais avant d'en arriver là, il a fallu beaucoup lutter et vous êtes bien placé pour le savoir. Alors dites-nous.
En 1965, le petit groupe qui contenait alors la communauté que nous étions alors, la communauté juive, environ moins de 2000 personnes, s'est rendu compte qu'il fallait absolument à Madrid une école juive, étant donné que beaucoup des habitants de Madrid de l'époque venaient du Maroc, où ils avaient la chance d'avoir depuis plus de 100 ans les écoles de l'Alliance, qui étaient excellentes et qui aidaient aussi les familles des enfants nécessiteux à pourvoir à leur matériel scolaire, les vêtements, les lunettes, parfois la suralimentation quand il s'agissait d'enfants rachitiques. Et beaucoup d'aide que leur apportaient ces magnifiques écoles qui avaient été fondées en France à la fin du XIXe siècle pour tous les juifs des pays du bassin de la Méditerranée. Ce petit groupe de gens a donc cherché tout d'abord un local. C'était assez difficile, mais nous avons trouvé finalement une villa qui se trouvait pas loin du centre de Madrid, et nous avons commencé avec 7 élèves. Oui, 7 élèves seulement, et à la fin de l'année, il n'y en avait que 14. Il y avait une seule maîtresse, qui était d'ailleurs remarquable, et le directeur. Par la suite, l'année suivante, on a ouvert la première classe, la 11e, et qui est maintenant le cours préparatoire. Et nous avons eu, je crois, 25 élèves, 25 à 30 élèves jusqu'à la fin de l'année. Et ainsi de suite, les années succédant aux années, il y a eu chaque fois plus d'enfants. Quand on est arrivé à 90, cela nous a semblé un chiffre astronomique. Chaque année, on ouvrait une nouvelle classe. Finalement, il a fallu changer de local. Nous avons pris 2 chalets jumeaux qui n'étaient pas loin du premier. Les conditions étaient assez rudimentaires, il n'y avait pas de salle à manger, les enfants mangeaient à tour de rôle dans une longue table qui se trouvait à l'entrée de l'école. D'aucuns nous ont même critiqué en disant que les locaux n'étaient pas adéquats, mais les enfants étaient heureux, ils apprenaient l'espagnol, le français et l'hébreu. Pourquoi le français dans un pays de langue espagnole? Parce que la plupart des gens qui étaient venus de Maroc étaient de culture française, comme je vous l'ai dit. Ils avaient été à l'école de l'Alliance ou dans les écoles françaises pour leur scolarité, et à cette époque-là désiraient que leurs enfants continuent à apprendre le français. Par la suite, il y a une 20aine d'années, sur la demande des parents de la première génération de l'école, qui eux, à leur tour, ont eu des enfants, l'école est passée à l'anglais, l'espagnol et l'hébreu, ce qui était assez difficile parce que enseigner à des enfants le français et l'espagnol, qui sont 2 langues voisines, était relativement facile, mais enseigner l'hébreu, l'anglais et l'espagnol, c'est assez difficile. Maintenant, on a surmonté tous les obstacles et les professeurs sont préparés à enseigner l'anglais. Les enfants apprennent avec facilité toutes ces langues et le français est devenu langue facultative et beaucoup d'enfants sont inscrits au cours de français.
Il n'y avait que des juifs dans cette école?
Non. Il y avait aussi des enfants espagnols. Nous avons eu même un petit noir d'Afrique, le fils d'un ambassadeur. Et tous les enfants se sentaient heureux à l'école. Les enfants non juifs étaient dispensés des cours d'hébreu, mais beaucoup de parents demandaient à ce qu'ils assistent à ces cours. Mais comme on enseignait en même temps la Torah et les bases de la religion juive, il nous a paru innécessaire de détourner les enfants des croyances de leurs parents. Par la suite, la demande à l'école a été si forte qu'il n'a plus été possible de recevoir des enfants non juifs, puisqu'il n'y avait même plus assez de place pour les juifs, et qu'ils avaient quand même la priorité, puisque les autres pouvaient bénéficier de toutes les écoles de la capitale, qui sont nombreuses.
Très bien. Et c'est arrivé surtout quand tous les juifs d'Amérique du Sud et surtout d'Argentine sont arrivés et il fallait leur faire une place dans cette école.
Bien sûr. Et comme il est venu beaucoup d'enfants d'Argentine, quelques-uns du Brésil, du Pérou et beaucoup du Venezuela, dont les parents étaient eux-mêmes d'origine marocaine. Cette école est remplie actuellement par les enfants, très souvent les enfants des parents qui eux-mêmes ont été élèves de l'école, et par tous ces nouveaux venus d'Amérique du Sud qui se sont parfaitement intégrés dans l'école. Il y a aussi des Israéliens et des enfants d'autres nationalités qui se trouvent par hasard en Espagne parce que leurs parents ont trouvé des situations ici. Mais d'autre part, si un non-juif se présente et c'est un cas très intéressant, par exemple celui d'une petite fille paralysée qui dernièrement est entrée à l'école et a donné toute satisfaction, et dont le domicile se trouvait près de l'école, elle a été reçue à bras ouverts par la direction de l'école. Et il faut surtout signaler dans cette école l'extrême dévouement des professeurs qui font leurs tâches avec enthousiasme. Les directeurs et directrices qui se sont succédés ont été en général des personnes remarquables, pleines d'initiative. Et chaque fois, l'école progresse. Les professeurs et les directeurs vont en Israël où l'éducation est très en avance sur la plupart des pays. Et là, se mettent au courant des dernières techniques, tant pour les jardins d'enfants que pour l'enseignement des langues, que pour les thèmes personnels que les enfants développent. Ils se font aussi des travaux manuels, en général en relation avec les fêtes du calendrier juif. Ils célèbrent avec enthousiasme le Seder de Pâques. Et l'année dernière, après tant d'années, j'ai pu assister à une célébration d'un céder avant la lettre, et dans laquelle tous les enfants chantaient avec enthousiasme les airs traditionnels de la Gada et les chansons de Pessah. J'ai oublié de vous dire une chose très importante. Il y a quelques années, le père d'un élève argentin qui avait perdu un neveu de 17 ans au moment de la terrible époque des colonels en Argentine, en République argentine, a décidé d'offrir au nom de son neveu un polideportivo, c'est-à-dire une salle de gymnastique et multisport, ainsi qu'une piscine dans la même enceinte, au nom de son neveu qui avait disparu à l'âge de 17 ans à Buenos Aires. Et depuis cette époque, nos enfants, nos élèves de l'école peuvent jouir d'un magnifique stade dans lequel ils peuvent pratiquer tous les sports. Ils apprennent à nager tout petit et le dimanche disputent des championnats de football et d'autres sports avec les élèves des écoles espagnoles voisines. C'est un stade qui est utilisé au maximum et qui a rendu de très grands services à l'école. Merci aux généreux donateurs argentins.
Alors, merci beaucoup. Merci surtout d'avoir participé à la création de cette école qui, comme je disais, est quand même une des réalisations les plus importantes dans une communauté. Et à bientôt, Martine Lasserie pour Radio Sefarad.